solidarité avec les femmes du monde entier. France, 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 solidarité avec les femmes du monde entier.
Bonjour, vous êtes en direct sur Radio Panique, l'émission « Elles en parlent encore ». Aujourd'hui, c'est une émission spéciale conçue et réalisée par des jeunes filles, reporters de la Voix des Femmes, en collaboration avec Vie Féminine et avec l'aide de la commune de Saint-Josse. Nous avons travaillé pendant un an sur le thème du sexisme à l'école, en réalisant des reportages avec différents intervenants que vous allez entendre. Les réalisatrices du projet sont...
Samra, j'ai 18 ans et je suis rhétoricienne.
Ajar, j'ai 19 ans, je suis en couture.
Özlem, 20 ans, je suis en aspirant nursing.
Vildan, 20 ans, je suis en 6e périculture.
Christelle, 17 ans, je suis en 5e secondaire, section générale. On commence par une première question. Pourquoi avoir choisi ce thème cette année ?
Ben d'abord, c'est un thème qui revient souvent, mais on n'en parle pas. C'est plus un thème qui est souvent masqué. On a tellement l'habitude de vivre avec ça, avec le sexisme, que tout le monde est habitué à ça. Donc, c'est un peu bien de voir les réalités et de prendre du recul en parlant de ce sujet.
Parce que ce thème, il est vraiment touchant. C'est pour ça qu'on veut en parler. Parce qu'il n'est pas vraiment... plus souvent en parler.
Dans mon lieu de stage lié à mon école, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient la différence entre les filles et les garçons.
C'est parce qu'en fait, à l'école aussi, on a tous vu des sexismes, etc. On a vu des différences. Dans l'école, on a vu des profs qui avaient fait aussi des différences entre les filles et les garçons.
Ce sujet est un sujet qui m'interpelle, qui me choque quand je vois des discriminations entre hommes et femmes, des injustices, tant au niveau social qu'économique. Et donc, c'est pour cela que j'ai choisi de participer à ce projet avec vous, les filles. Maintenant, nous allons écouter une capsule sonore de la manifestation du 8 mars organisée par la Marche mondiale des femmes.
Oui, donc bonjour, moi je m'appelle Magali. Et voilà, je suis militante féministe et je viens aujourd'hui pour la Journée internationale des femmes pour lutter pour plus de droits. Voilà.
Avez-vous déjà vécu des différences de traitement entre les filles et les garçons à l'école ?
Oui, alors moi quand j'étais petite, parce que j'ai déjà un âge certain, je n'oserais pas le dire, mon papa il voulait toujours que je sois secrétaire, hein, et donc je serais sans doute la plus mauvaise secrétaire du monde, et donc il voulait m'associer à ce que je fasse un certain métier, et il me disait, bah, comme tu seras maman, c'est bien que tu sois secrétaire, comme ça tu pourras combiner ta vie familiale, voilà, et donc je ne suis pas devenue secrétaire, et je me souviens que ça a été ma première prise de conscience, où j'étais pas d'accord avec mon papa, voilà.
Dans les activités extrascolaires, les choix des filles et des garçons étaient-ils différents ou pas ?
Oui, alors moi, quand j'étais enfant, on me disait que je faisais de la couture parce que j'étais une petite fille. Donc j'ai réparé des chaussettes, j'ai fait de la broderie, etc. Et depuis lors, je déteste la couture. Et donc je pense qu'on aurait pu me proposer, par exemple, de faire du bricolage. Mais ça, c'était inimaginable à l'époque. Donc je parle des années 75-80.
Et quand vous étiez à l'école, dans le manuel scolaire, les rôles des femmes et des hommes étaient-ils figés ? Étaient-ils toujours les mêmes ?
Alors moi, je me souviens que j'ai appris à lire et à écrire avec un livre qui s'appelait « Daniel et Valérie ». Et donc, c'était l'histoire d'une petite fille et d'un petit garçon. Et donc, Valérie, elle faisait de la cuisine avec sa maman. Et Daniel, il allait faire jouer au foot avec son papa. Donc, les rôles étaient très, très stéréotypés.
Et maintenant, pensez-vous que cela a changé ou pas ?
Alors je pense qu'il y a malgré tout une évolution, c'est-à-dire qu'on n'a pas des stéréotypes aussi visibles. Par contre, on voit encore des inégalités dans certains manuels scolaires. Par exemple, on verra peut-être plus les petites filles à la cuisine, mais on verra moins les femmes ou les petites filles dans des rôles proactifs, comme des politiciennes ou comme des ingénieurs. Donc les rôles sont un petit peu moins stéréotypés, mais il reste quand même des stéréotypes.
Solidarité avec les femmes du monde entier.
Et moi je suis Maria Miguel Sierra et je suis la directrice de la Voix des Femmes.
Avez-vous déjà vécu des différences de traitement entre les filles et les garçons à l'école ?
Bon, dans la mesure où moi je viens d'une famille où il n'y a que des filles, et qu'à l'époque, j'étais dans une école avec des filles. C'est vrai que je n'ai pas vécu dans l'école primaire et secondaire ces différences entre filles et garçons. Mais disons que dès mon entrée à l'université, je me suis rendu compte que effectivement la société se divisait comme ça en registre masculin et registre féminin. Et que effectivement le monde était essentiellement pensé par des hommes pour des hommes et que les femmes essayaient de trouver leur chemin dans cette vision très masculine des choses.
Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire parce que vous étiez une fille ?
Je crois que j'ai pu avoir le soutien et trouver les moyens de réaliser ce que je voulais faire. Je travaille dans un monde éminemment féminin. Le monde des associations est un monde très féminin. Le monde des services aux personnes est encore trop féminin, mais c'est révélateur aussi d'un mode de fonctionnement. C'est qu'on nous cantonne aussi dans ce genre de poste et de position. Je peux imaginer que si j'avais voulu avoir des responsabilités au sein d'une grande entreprise ou d'une grande institution, je sais, c'est pas que j'imagine, je sais que j'aurais eu beaucoup de problèmes à accéder à certains postes si j'avais un jour voulu y accéder.
France, France, solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier.
Bonjour, je suis Jacques de Batty et je suis président du MOC, du Mouvement Vrai Chrétien de Bruxelles.
Quand vous étiez à l'école, dans les manuels scolaires, les rôles des femmes et des hommes étaient-ils figés, étaient-ils toujours les mêmes ?
Alors, quand moi j'étais à l'école, ça remonte quand même à 50 ans d'ici. Alors, certainement, il y avait plein de choses figées. Mais je vois aussi qu'il y a un certain nombre de différences qui se reproduisent au niveau de mes petits-enfants. Là, je les observe. Je vois ma petite fille, je trouve qu'elle adopte un certain nombre de rôles qui sont un peu stéréotypés. Et je pense, par exemple, que des films comme les films de Walt Disney sont des ramassis de stéréotypes absolument abominables. Et quand je vois une petite fille qui s'identifie aux princesses des différents types que l'on voit dans les films de Walt Disney, je me dis « catastrophe, c'est mal parti
». Je m'appelle Séverine Michrou, je travaille à la SBL La Voix des Femmes en tant que formatrice. Donc avec des femmes adultes.
Selon vous, est-ce que les professeurs font-ils les différences entre les filles et les garçons ?
Je pense que tout le monde fait des différences entre les filles et les garçons. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans toutes les mentalités, pas seulement chez les professeurs. Et je pense qu'il y a un très gros travail d'éducation à faire par rapport à ça, le sexisme au quotidien. Il suffit d'aller voir dans les livres pour enfants ou les magasins de jouets pour s'en rendre compte. Moi, je pense que dans la littérature, c'est très figé. C'est très figé. Je pense qu'on a maintenant une littérature pour jeunes et pour enfants où on est plus dans la modernité, où en effet, on a des rôles moins figés. Mais je ne suis pas sûre qu'ils soient accessibles pour tous, qu'on les mette dans les bibliothèques, qu'on les mette dans les écoles. Regardez les magazines, déjà, on voit que les choses n'ont pas tellement changé, malheureusement, et notamment dans la publicité aussi.
Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité.
Je m'appelle Rachida, j'ai 2 filles et 2 garçons.
Vous avez déjà vécu des différences de traitement entre les filles et les garçons à l'école ?
Oui, c'est sexiste. À l'école, il y a beaucoup de sexisme à l'école. Oui, même dans la cour, sont surveillées plus les filles que les garçons. Les filles sont toujours, tu vois, faibles, je ne sais pas. Que tu ne savais pas se défendre, je ne sais pas. Mais dans la vie en général, il y a beaucoup de sexisme.
Est-ce que vos parents faisaient la différence ?
Oui, vraiment. Ils sont poussés plus les garçons à étudier que les filles, tu vois. C'est toujours la même chose.
Après avoir écouté une capsule sonore de la manifestation, quelles sont vos réactions ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
En ce qui me concerne, j'ai été interpellée par le fait que nous avons tous grandi avec Walt Disney, comme un homme l'avait dit dans la capsule sonore. On a tous grandi avec des livres qui enferment énormément de stéréotypes. On est petit, on ne se rend pas compte de ça. Même nos parents, ils ne se rendent pas compte de ça. C'est tellement imprégné dans nos mentalités qu'on grandit avec ça. Et après, pour nous, ça devient normal. C'est vraiment normal qu'une fille fasse la cuisine et qu'un homme va au boulot et travaille, quoi. C'est devenu tellement normal que personne ne peut enlever cette mentalité de son esprit. C'est vraiment trivial de dire, toi, t'es une femme, tu ne travailles pas, et toi, t'es un homme, tu vas travailler au boulot, quoi. Donc, c'est vraiment la source du problème, en fait. L'éducation passe partout. Enfin, la société qui met en place des... par exemple, des bibliothèques, mais toutes ces bibliothèques enferment des livres qui enferment aussi, eux, des stéréotypes, et tout ça, faut qu'on les change.
En fait, moi, je ne comprends pas pourquoi les filles ne doivent pas jouer au foot, ils doivent rester féminines, et les garçons, ils doivent être musclés, ils doivent être forts et tout ça. Moi, voilà quoi. Les filles aussi doivent faire beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas que les garçons.
Je trouve que le rôle des parents est vraiment très important, car les parents imposent des métiers, quoi. Pour les filles, tu dois faire cuisinière, infirmière, puéricultrice, et pour les garçons, mécanicien, footballeur, etc. Pourquoi pas les filles ne peuvent pas faire être footballeur, etc. Voilà.
Faire ce qu'ils veulent, etc. Ils ne nous donnent pas beaucoup de choix, on va dire, mais il y a eu quand même des trucs qu'ils ont changé par rapport à avant. Même dans les manifestations, comme les gens qu'on avait interrogés, c'était des gens qui avaient un peu déjà l'âge, etc. Ils nous ont dit que c'était plus strict par avant, que les parents, ils imposaient encore plus que maintenant. Donc, je trouve qu'on a quand même un peu plus de la chance que eux.
Moi, j'ai remarqué que dans les manuels scolaires ou dans les livres, les rôles sont très, très stéréotypés. Par exemple, quand nous ouvrons un manuel scolaire de néerlandais et que nous devons faire un exercice, nous voyons une fille faire la cuisine et donc en dessous, on doit écrire ce qu'elle fait en néerlandais et nous voyons un garçon jouer au foot et donc en dessous, on doit écrire la traduction en néerlandais. Et je trouve que déjà, ce sont en général des petits-enfants qui voient ça et donc dès leur très jeune âge, ils vont être choqués par ça et pour eux, ça va être normal et donc ça va pas les interpeller. Et aussi, une phrase qui m'a interpellée dans cet extrait, c'est que le monde est pensé par les hommes pour les hommes et donc les femmes doivent, c'est à elles de s'adapter et de trouver leur chemin et de s'adapter par rapport aux hommes et non le contraire. Je trouve ça très dommage. Maintenant, nous allons écouter un reportage que nous avons réalisé dans une école.
Oui, donc voilà, bonjour. Je travaille dans l'enseignement et je suis maman. J'ai deux enfants.
Avez-vous déjà vu des différences de traitement entre les filles et les garçons à l'école ?
Je ne pense pas. Il faut dire qu'ici, à l'école où je travaille, il y a très peu de garçons. La mixité est arrivée il y a seulement 5 ans à peu près. Mais on essaie vraiment de rester dans l'égalité. De tout temps, on a vu que c'est plus des jeunes filles qui s'intéressent à l'option périculture. Parce que voilà, on a un contact avec les bébés, avec les tout petits bouts, et donc on pense qu'il y a vraiment un contact plus maternant quand c'est avec une jeune femme. Mais moi, je pense personnellement qu'un jeune monsieur, à partir du moment où il a cet instinct, je veux dire, maternel, où il peut être attentionné et s'intéresser à l'enfant en bas âge. C'est vrai que bon, j'ai entendu, j'ai vu, mais c'est dans des cas très particuliers, un homme être dans la périculture, mais c'est vrai que ça intrigue beaucoup de gens. Et pour moi, sincèrement, je pense que il faut vraiment faire la part des choses et se dire que voilà, cette option périculture, ben pourquoi pas, si elle intéresse des jeunes garçons, pourquoi pas.
Et comment les filles vivent ça? Comment les filles vivent le fait qu'il y ait un garçon dans leur section qui est en général traditionnellement une section de filles?
Oui, pour moi, je pense que c'est une richesse. La mixité dans le genre est aussi importante que la mixité sociale.
Et par rapport à ça, justement, l'orientation scolaire, Est-ce que les parents imposent ou bien proposent aux filles certaines orientations et aux garçons certaines autres orientations?
Oui, alors il y a peut-être chez certains parents, effectivement, une influence. Voilà, comme tu es une fille, ce serait bien que tu fasses des études de péricultrice. Comme ça, tu t'occuperas davantage des enfants. Tu sauras comment éduquer les enfants, comment t'en occuper. Et donc, ça va t'aider à plus tard t'occuper de tes propres enfants. Pareil pour les garçons, la mécanique. Si tu fais de la mécanique, tu sauras si tu as un problème, que ce soit avec ta voiture ou autre.
Avec ma voiture.
Voilà, l'électricité aussi. Voilà.
Ils pensent que ce n'est pas un travail de femme.
Tout à fait. Ils pensent souvent que c'est le travail de l'homme et que c'est l'homme qui est le mieux outillé pour pouvoir répondre et travailler dans ce domaine-là. Et je pense que c'est encore des clichés et on ne fait pas progresser la société comme ça.
Dans les manuels scolaires, les rôles des femmes et des hommes étaient-ils figés, étaient-ils toujours les mêmes? Et maintenant, pensez-vous que ça l'a changé?
Alors, oui, heureusement, je pense qu'avec le temps et l'évolution des livres scolaires et tout ce qui est mis à disposition des jeunes dans l'enseignement, sincèrement, je vois qu'il y a une belle évolution. Ce que j'apprécie fort aussi de nos jours et au niveau de cette évolution, c'est que donc il y a eu cette progression sexiste et en plus il y a eu une progression au niveau je dirais la multiculturalité. Donc dans les livres scolaires, je vois, ou dans les exemples que les professeurs prennent pour expliquer certaines choses aux élèves, ils prennent des prénoms d'origine étrangère, ce qui ne se faisait pas à l'époque où moi j'étais à l'école, par exemple. Et je trouve que vraiment au niveau de l'identité, de la reconnaissance du jeune, ça peut vraiment bousculer tous les préjugés et valoriser la multiculturalité.
Est-ce qu'il y a plus de professeurs d'hommes ou...
Je pense qu'à la base, c'est vrai que l'enseignement convient plus à une vie de maman. Et c'est vrai que ça, il ne faut pas se le cacher.
On parlait de violence avant, les violences sexistes, mais les insultes sexistes, est-ce que les professeurs entendent parfois des stéréotypes?
Je dirais que peut-être ici un peu moins, mais donc à mon avis, on pourrait améliorer cette relation qui, je dois dire, dans certaines écoles est assez... mais donc voilà, il faut qu'on soit très à l'écoute en tant que professeur, en tant qu'éducateur, essayer vraiment de voir, et dès qu'on sent que ça va déraper ou que ça dégénère, peut-être réagir et faire de la prévention dans les écoles. Et parents, professeurs, éducateurs, on est tous là pour le bien-être des jeunes et ensemble on peut vraiment arriver à faire changer les mentalités.
Après avoir entendu cet extrait, quelles sont vos réactions, les filles? Qu'en pensez-vous?
En fait, je ne suis pas d'accord avec l'idée que l'option périculture est faite plus pour les filles, en disant que comme c'est des mamans en plus tard, etc., que ça sera un plus pour eux. Je trouve qu'il faut donner aux hommes aussi leur place de papa, donc ils peuvent faire aussi l'option de périculture pour que plus tard, ils s'occupent mieux de leurs enfants. Et que voilà... Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole.
Oui, en fait, tu avais dit que l'option périculture, ce n'est pas seulement pour les filles, mais aussi pour les garçons. Je suis d'accord avec toi, parce que même en pensant que l'option périculture, c'est pour les filles, déjà, on dit que la femme est faite pour s'occuper des enfants et directement, on prend la possibilité d'exercer une vie professionnelle où elle peut travailler, mais on combine sa vie privée avec sa vie professionnelle carrément. Tu fais péricultrice, ça t'aidera plus tard à t'occuper des enfants. Et quand tu auras des enfants, tu abandonnes ton métier et tu t'occupes de tes enfants. C'est vraiment dans cet esprit-là, je pense.
On n'est tous pas d'accord avec ces idées-là.
Mais moi, je trouve que les parents jouent aussi un rôle dans le choix des métiers des enfants. Parce que, par exemple, un papa, s'il a un garçon, s'il a un fils, lui dira « Oui, plus tard, je veux que tu sois mécanicien, aviateur, pilote. » Donc, il voit un grand avenir pour son fils. Tandis que la mère dira à sa fille « Oui, plus tard, je veux que tu sois péricultrice ou alors maîtresse. » Donc, déjà, les parents influencent les enfants dès leur plus jeune âge.
Je suis vraiment d'accord avec vous. Pourquoi on ne peut pas choisir notre métier et laisser les parents dire ce qu'on va faire plus tard, quoi. Je suis vraiment contre.
Moi aussi, je suis contre ça, parce qu'on a le droit de choisir notre métier plus tard.
Okay. Oui, et en plus de ça, c'est, par exemple, on a dit que les femmes préféraient plus s'orienter vers l'enseignement et nos parents nous poussent aussi nous orienter vers le domaine de l'enseignement. Je pense que nos parents veulent le mieux pour nous, hein, pour qu'on ait des congés supplémentaires, pour qu'on ait une vie sans trop de stress, et même les femmes s'orientent vers ce domaine-là, mais à la fin, ça ne change rien, quoi. C'est... Même si on exerce un autre métier, on peut aussi mener une vie sans trop de stress. Et
c'est vraiment... On peut très bien combiner les deux, donc tant la vie privée qu'à la vie professionnelle. Ok, nous allons maintenant écouter un extrait de l'entretien que nous avons eu avec un psy de PMS. Cet entretien se déroule en deux phases.
Je dirais que ici, en tout cas dans l'école, pour une bonne partie, je pense, les filles obtiennent... par exemple, de l'option puriculture, leurs diplômes vont jusque leur 7e et bien souvent obtiennent ce diplôme. On a beaucoup d'élèves aussi qui sont déjà beaucoup plus âgés par rapport à leur année d'études et qui refont parfois la puriculture après être passés par différentes options. Et donc, on sent là qu'il y a une réelle motivation à aller jusqu'au bout quelque part. Et puis, je dirais, on a aussi toute une série de jeunes filles qui choisissent la puriculture dans l'école parce que ça leur semble un choix coulant de source, et puis on se rend compte que finalement c'est pas du tout ça qui leur convient, parce que c'est pas n'importe quoi, c'est un métier, on est confronté à des êtres vivants, à des bébés qui plus est, avec des besoins à anticiper, à servir, etc.
Et les garçons?
Je dirais qu'en général, il me semble que les garçons vont jusqu'au bout, les filles même chose dans le général, enfin ici c'est technique de transition, mais on va dire c'est plus ou moins équivalent. Dans le professionnel, malheureusement, l'option proposée ici, que sont les travaux de bureau, je vais dire là ça me paraît un peu plus mitigé. Certains vont aller jusqu'en 7e parce que ce qui leur intéresse c'est le certificat de gestion, d'autres qui n'ont pas du tout cet horizon là à l'esprit peuvent végéter assez longtemps en travaux de bureau avant finalement soit de quitter carrément l'école, ce qui est dommage je trouve, soit vont complètement se réorienter. Mais malheureusement, j'ai un peu le sentiment, mais c'est une perception personnelle, que bien souvent ils vont quitter l'école bien avant. Dès qu'ils ont 18 ans et qu'ils savent que l'obligation scolaire n'est plus d'application, y a toute une partie de nos jeunes, de jeunes garçons qui préfèrent partir, de jeunes filles aussi, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est dans de moindres proportions.
Est-ce que les parents ils ont une préférence scolaire?
Je dirais que les parents, j'ai l'impression que la majorité des parents veulent toujours le meilleur pour leurs enfants. Alors le meilleur, après, ça reste à définir. Maintenant, on a effectivement des parents qui, parfois, ont certains stéréotypes sur les études. Si certains parents ne peuvent pas entendre l'idée que leur fille puisse devenir esthéticienne, par exemple, parce que ça a une notion trop proche du corps et que le corps, c'est quelque chose qui est trop intime pour qu'on puisse... Il y a toute une série de choses. Je dirais, passé un certain âge, j'ai l'impression que c'est surtout la décision du jeune qui prévaut. Maintenant, je dois bien avouer que je vois rarement des filles dire... je veux faire la maçonnerie. Alors, est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est plutôt des stéréotypes en vogue chez les jeunes? C'est compliqué à dire, mais bon, je pense à un peu tout ça en même temps. Ouais. Quoi. Alors, par rapport aux écoles mixtes, donc mixtes au niveau du sexe, hein. En même temps, c'est difficile d'être contre. Peut-être que des écoles juste pour les filles, parfois, ça pourrait dans la tête de certaines jeunes filles être une meilleure chose. Moi, j'estime que voilà, la société est mixte et que l'image de l'école et de la société sont parfois un peu d'étranges copier-coller. Et je me dis, je vois pas pourquoi on aurait des écoles qui ne seraient pas mixtes. Alors je dirais, bon, bah, ici, c'est une école où le port du voile est autorisé. Et je pense que c'est une manière aussi de pouvoir... certaines jeunes filles, moi, me disent porter le voile pour justement... pouvoir mieux respecter l'islam dans le sens de ne pas être embêté par des garçons, ce genre de choses. À la limite, j'ai plutôt envie avec elle de complexifier le débat plutôt que d'adopter un jugement de valeur, puisqu'en plus, ce n'est pas du tout mon rôle et c'est contre ma déontologie. Donc,
Est-ce que les stéréotypes sexistes sont renforcés avec la mixité?
J'ai quand même l'impression que la non-mixité pourrait davantage renforcer des stéréotypes. Avec un cloisonnement des rôles, des fonctions de l'homme, de la femme dans la société.
Ça suffit peut-être pas à faire de l'égalité, puisqu'on voit
ça, c'est clair. Ça, c'est clair que je pense... je crois que ça serait très simple de résumer la question de l'égalité à la question de la mixité. L'évolution des mentalités et du progrès n'a jamais été vraiment... c'est jamais fait en même temps, quelque part. Je crois que le progrès technologique a évolué très fort. Les mentalités, ça met beaucoup plus de temps à évoluer.
Les filles réussissent mieux à l'école. Votre avis, pourquoi?
J'ai pas l'impression que ce soit une question d'intelligence, déjà. Parce que, honnêtement, je pense pas avoir lu des statistiques qui montreraient que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Faudrait d'abord voir quelle est la cause de l'échec, finalement. Peut-être prendre le problème.
Des garçons, prendre le problème dans l'autre sens.
Voilà, prendre le problème dans l'autre sens. Est-ce que. Ils réussissent moins bien parce qu'ils sont moins compétents ou moins motivés à étudier ou parce qu'ils sont moins bien souvent motivés de par une mauvaise orientation? C'est sans doute un stéréotype, mais j'ai l'impression qu'une fille va peut-être choisir un peu mieux, va imaginer un peu plus un projet d'études avec un métier, etc., etc., qu'un garçon a plus de mal à se projeter dans l'avenir. On est plus dans l'immédiateté et dans l'agir. Et donc, est-ce que les garçons réussissent moins bien parce qu'ils seraient aussi moins bien orientés, parce qu'ils seraient dans une filière qui ne leur plaît pas et donc on est effectivement moins motivé à étudier? Par contre, c'est assez tangible. J'ai beaucoup plus de demandes d'entretien, d'orientation, etc., quelle que soit la fonction, chez les filles que chez les garçons. Peut-être parce qu'on est dans une société où l'homme doit être performant, doit toujours pouvoir s'adapter à toutes les situations et donc quelque part... Bien, pourquoi aller parler d'un problème qu'on pourrait avoir concernant un choix d'études alors qu'on est censé le faire soi-même? On va plutôt aller voir ce que les copains font, mais si les copains sont dans le même système, c'est parce qu'on est dans une société où l'homme doit être performant et donc il n'a pas le droit à être faible quelque part. Il n'a pas le droit à avoir des difficultés.
Une
alors
aide,
que...
une écoute parfois.
Voilà, exactement. Alors moi je me dis que c'est une piste. Je ne pense pas que ce soit une question d'intelligence. Maintenant, un contre-argument à ce que je viens de dire, c'est que dans les études primaires où il n'y a aucune orientation, on voit que les filles réussissent mieux que les garçons.
Tout à fait.
Et là, je n'ai pas vraiment beaucoup de réponses, honnêtement. Est-ce que les garçons sont plus jouettes que les filles? On pourrait se poser la question pour dire les choses de manière très caricaturale.
Donc, après avoir écouté cet extrait, quelles sont vos réactions?
Concernant le fait que les filles vont plus facilement demander de l'aide pour leur future orientation ou de l'aide scolaire et que les garçons pas vraiment. En fait, hier, c'est vraiment hors contexte, mais j'ai envie de parler de ça. Hier, on a eu des psychologues qui sont venus dans la classe et nous ont demandé ce que les professeurs pouvaient mettre en place pour que les étudiants s'orientent mieux. Alors, il y a un garçon qui avait dit que si les professeurs faisaient vraiment un cours spécial concernant notre future orientation, ce serait beaucoup mieux. Et il a rajouté que si on faisait un bureau séparément, comme le PMS, il n'irait pas par lui-même chercher de l'information. Ça, il l'a dit hier. Oui, il l'a dit comme ça. Et on ne s'est pas posé la question pourquoi. Personne n'a rien demandé. Le psychologue a dit OK, d'accord, comme si c'était vraiment normal. Donc vraiment, je trouve que les garçons ont vraiment une fierté. Quand on leur donne de l'information, ils sont contents, mais ils ne veulent pas y aller chercher. C'est un peu de la fierté, oui, mais d'un autre côté, je ne sais pas si c'est de la fainéantise, je ne pense pas. C'est plus le fait de ne pas se sentir faible ou bien moins intelligent ou bien... Peut-être qu'ils pensent de cette manière, les filles qui vont là-bas, ils ont des problèmes, ils veulent être soutenues parce qu'elles ne sont pas assez fortes. Et eux, je ne pense pas qu'ils veulent montrer ce côté un peu faiblesse, si je peux dire ça.
Je suis d'accord avec toi, parce que je pense qu'au niveau du choix de l'orientation, les filles réussissent mieux que les garçons, car elles sont plus motivées et elles pensent au futur. Et donc, elles ne sont pas dans le présent, mais elles visent l'avenir. Tandis que les garçons, ils doivent faire genre devant leurs copains et montrer que c'est eux les plus forts, c'est eux les plus intelligents. Et donc, c'est eux les plus forts, mais même s'ils ils sont intelligents, et ben, ils vont le garder pour eux et ils ne vont pas le montrer, quoi.
Oui.
Ben moi, je pense que si les garçons ils sont comme ça, c'est à cause de leur entourage et un peu le rôle des parents, etc. Parce que depuis, je veux dire, les garçons, quand ils sont petits, etc., on leur dit déjà, t'es un garçon, tu peux pas pleurer. En fait, on interdit déjà aux garçons d'être faibles. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent pas faire tout ça, aller à l'aide, etc. Donc, il faut que les gens bougent, qu'ils travaillent sur ça aussi.
Oui, c'est vrai. Comme tu as dit, peut-être que là, le problème, ce n'est pas les garçons eux-mêmes. Peut-être que les garçons eux-mêmes enferment beaucoup d'émotions en eux. On ne peut pas dire que les garçons n'ont pas de cœur. Peut-être qu'ils ont ça. Mais c'est vraiment l'entourage qui casse ça, qui dit non, tu ne peux pas. Et vraiment, d'un côté, je dis les pauvres.
Mais je trouve qu'arrivé à un stade aussi, les garçons, ils ne veulent pas surpasser ce stade. Et eux, ils veulent toujours être dans la facilité. Et directement, quand ils sont devant un problème, eh ben, ils ne veulent pas le surpasser.
En fait, ils veulent montrer qu'ils sont forts et tout ça. Ils ne veulent pas montrer qu'ils sont faibles, quoi.
Donc, dans mon lieu de stage, je vais vous donner un exemple. Car un petit garçon était tombé par terre et la puéricultrice est partie à côté de lui et elle a dit qu'il ne faut pas pleurer, tu es un grand garçon, arrête de pleurer. Quand tu vas grandir, tu ne vas pas pleurer devant tout le monde. Voilà, donc c'est aussi l'entourage, comme vous avez dit, quoi.
Oui, voilà.
Bah alors, on est toutes d'accord sur le même point.
Oui, bien sûr.
Ok, ça va. Donc, nous passons à la suite avec un autre extrait de ce même psychologue.
Les violences physiques, verbales entre les filles et les garçons.
Malheureusement, oui. Mm-hmm. Non seulement il y a des insultes entre les garçons et les filles, mais des insultes sexistes, je dirais. Et là, c'est peut-être un stéréotype, mais je ne pense vraiment pas surtout des garçons vers les filles. Ça, c'est... Je dirais, j'entends même de plus en plus de violences tout court entre personnes du même sexe. Et étrangement, avec parfois des insultes qu'ils pourraient dire à l'autre sexe. Des sales qui vont être dites entre filles, finalement. Mm-hmm. Là, je dirais, elle doit exister, à mon avis. Mais on n'en est pas toujours témoin. La plupart des violences s'expriment surtout dans le secret, finalement. C'est parfois dans la maison, c'est... Je dirais, mais entre les élèves, oui, malheureusement, ça existe. Et je crois que ça commence déjà même parfois en maternelle. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut systématiquement reprendre les jeunes, mais finalement, je pense que comme c'est nous qui leur montrons l'exemple, je crois que si tout le monde relevait le nombre de... quand on entend quelque chose de reprendre l'enfant... Je crois que si tout le monde le faisait, ça aurait un impact. La plupart du temps, quand on assiste à une violence ou quand on entend certaines insultes, même dans l'école, même quand on a une fonction d'éducateur ou de professeur, on va faire la sourde oreille et on n'a rien vu. Et donc, si on n'a rien vu et qu'on a fait la sourde oreille, rien ne s'est passé, il n'y a pas de limite. Donc, l'agresseur n'est plus considéré comme un agresseur et la victime non plus. Donc, on a le sentiment de toute puissance d'un côté qui va se renforcer et ça va dérailler, et la victime, si elle n'est pas victime, c'est qu'elle est coupable. Mmh. Et donc, quelque part, bien, rien ne va bouger, au contraire, ça va plutôt, le phénomène va s'accentuer selon moi.
Mais comment on peut expliquer que des éducateurs ne réagissent pas à ce genre de... Est-ce qu'ils sont formés? Comment on peut expliquer ça, qu'ils ne réagissent pas à ce genre de...
Bon, c'est un peu caricatural, la plupart du temps, ils réagissent, et, en tout cas, j'ose le croire. Je pense que c'est la lassitude ou la crainte. Mm-hmm. La crainte de devoir intervenir et de se positionner comme adulte avec des limites. Par rapport à un ado qui est peut-être plus grand que nous, plus balèze ou qui en impose plus, ça peut parfois nous confronter à nos propres limites et de se dire, bon, ben, par rapport à ça, comment je me positionne? J'ai rien entendu, j'interviens pas, où est-ce que j'interviens?
Et vous recevez beaucoup de jeunes qui ont été victimes de violences ou même dans les couples, hein, on en parlait avec les jeunes filles, il y a des couples jeunes hein, où les filles sont parfois victimes de violences physiques ou verbales de la part de leurs partenaires.
J'ai déjà été confronté à ça, je dirais, en matière de violences physiques. Je parlerais vraiment plus de maltraitance physique intrafamiliale. Maintenant, je dirais la violence qui s'exprime le plus, j'ai envie de dire, c'est plutôt une violence verbale. Et je crois que le problème, c'est que comme c'est une violence plus diffuse, elle peut être répétée. Mmh. Et à partir du moment où elle est répétée, alors on peut vite aller dans certains engrenages. Ça commence par une insulte, une moquerie, et puis très vite, les choses prennent de l'ampleur. Mmh.
Dans les activités scolaires, le foot, basket, danse, le choix dans les filles et les garçons, et il y a une différence.
Bah oui, là c'est clair que c'est plutôt stéréotypé là aussi. Je vois beaucoup plus de garçons vouloir jouer au foot ou au basket que de filles. Maintenant, ce qui moi me pose problème, je dirais, j'ai l'impression que les activités extrascolaires sont parfois très réduites. Et le football, finalement, c'est un sport populaire, assez accessible. J'ai l'impression que les activités extrascolaires, pour beaucoup des élèves ici, au lycée en tout cas, sont très réduites.
À votre avis, dans le milieu scolaire, il y a plus d'enseignantes ou d'enseignants?
J'aurais l'impression qu'il y a un peu plus de femmes que d'hommes, mais que ce n'est pas non plus une majorité écrasante.
Qu'est-ce qui vous frappe en tout cas?
Je ne pense pas. Souvent, quand on interroge des plus petits sur les études qu'ils voudraient faire, ben déjà là c'est très stéréotypé, hein. Les garçons ils veulent faire pompiers, éboueurs parfois j'entends souvent, ou ils veulent faire policiers, ou bon, des choses de garçons entre guillemets, et puis les filles ben, elles veulent devenir institutrices. Peut-être aussi que le métier d'enseignant parfois, j'imagine, peut être plus compatible avec une vie de famille. Maintenant il y a un contre-exemple à ça, c'est qu'on trouve de plus en plus de filles qui font des études de médecine. Et c'est vrai que côtoyant des médecins, c'est souvent quelque chose qui revient plus, hein, du genre, eh bien oui, pour faire une garde quand on est une femme, c'est plus compliqué de concilier ça que si on est un homme. Donc ouais, les stéréotypes continuent même bien après les études. Et je crois qu'il y a les stéréotypes clairement, ou les représentations finalement qu'on a d'une situation, de ce que c'est qu'un propos sexiste, machiste, etc. Mais je crois clairement qu'il y a aussi un phénomène de lassitude. Plus vous entendez une insulte, ou plus elle va vous paraître comme n'étant pas tant une insulte. Et c'est une défense, justement. C'est ce qu'on développe comme mécanisme de défense pour ne pas avoir à supporter le poids de se confronter à l'insulte.
Moi, ce qui m'a choqué dans l'extrait, c'est entendre que les éducateurs et éducatrices, face à certaines violences que subissent les filles, ne réagissent pas et passent au-dessus. Donc, si par exemple, ils vont voir qu'il y a une fille qui se fait traiter de salope, de pute, de bitch, devant un cercle de garçons, et ben, ils vont pas réagir et ils vont se dire que c'est pas grave, que ça va passer et que si le fait de réagir, ça va créer des problèmes et ils ont pas besoin de ça. Et donc, je trouve ça très dommage.
Oui, c'est vrai ce que tu dis. Quand c'est une fille qui fait des conneries, c'est une salope. Et quand c'est un homme, ben, pour lui, c'est normal. Un garçon, c'est normal. Il fait des conneries. Ben, c'est un garçon, il a le droit. Mais la fille, non, elle ne peut pas faire de conneries. Si elle le fait, c'est une pute.
Oui,
c'est
voilà.
C'est vraiment bien stéréotypé. C'est...
Je suis vraiment d'accord avec toi. Parce que, genre, s'il y a une fille qui fait, comme tu dis, des conneries ou des choses pas bien, elle sera vue comme une pute. Tandis qu'un garçon, s'il fait la même chose, il sera vu comme un playboy, comme un macho. Et donc, voilà.
Oui.
En fait, une fille, juste si elle met une jupe, c'est une pute. Voilà, je comprends pas.
Tandis qu'elle veut juste être bien dans son corps et voilà.
Oui, en plus de ça, enfin, le pire, c'est que à force de traiter les filles par ces insultes, enfin, la fille psychologiquement, elle peut se dire à la fin, est-ce que je suis vraiment ça? C'est vraiment, il y a aussi un impact psychologique dans tout cela. Donc, il y a vraiment tout un système à changer ici, même les éducateurs, quoi. Soi-disant, c'est des éducateurs et ils n'agissent pas.
C'est leur métier, ils font rien du tout. Mais il n'y a pas que eux qu'on devrait en vouloir, on devrait aussi parfois en vouloir un certain de nos profs qui nous disent durant le cours, qui nous font passer des messages, mais c'est des sous-entendus, mais nous, les filles, on peut mal le prendre, ça peut nous choquer. Et donc, du genre, oui, les filles sont inférieures aux hommes, avec un petit rire narcissique, et donc, je trouve ça pas très cool et donc pas très sympa pour nous, les filles.
Oui, c'est vrai. Il faudrait sanctionner cette prof.
Tout à fait. Nous allons maintenant écouter un entretien très riche que nous avons eu avec Dominique, responsable de la bibliothèque de Saint-Josse.
Dans une bibliothèque comme celle-ci, il y a une large majorité de jeunes filles qui viennent chercher des livres. Par rapport aux garçons, je dirais, c'est peut-être trois quarts pour un quart, facilement. Donc il y a vraiment une volonté de réussir, une volonté de s'investir dans les études, et le reflet tout naturel de ça, ben, c'est les résultats qu'elles ont et les places qu'elles ont dans les écoles. Et donc, primaire, secondaire, même universitaire, le niveau est très très bon. Et comme par hasard, quand on arrive au moment de l'emploi, les postes à responsabilité sont occupés par des hommes. Voilà, c'est quand même bizarre. Surtout qu'en principe, on est dans un monde où la loi du marché est impitoyable, on prend les meilleurs. Alors comment se fait-il que ce soit quand même des hommes qu'on trouve en haut? Et ce qui est même curieux, c'est que même pour des métiers qui, au départ, dans leur version simple, sont attribués aux femmes, comme par exemple tous les métiers en rapport avec la couture, les métiers en rapport avec la cuisine, au départ, c'est une affaire de femmes. Mais dès qu'on commence à parler d'un chef de restaurant, c'est un homme. Alors qu'on voit bien que les capacités sont égales, si même pas supérieures du côté fille au départ. Donc c'est vrai qu'il faut considérer qu'on est quand même encore dans un monde d'injustice. Quoi. Et donc il y a encore du travail. Mais le tout est la façon de le présenter. C'est vrai que les stéréotypes, c'est quelque chose qui vient insidieusement. Dans l'éducation, quelquefois, les parents ne s'en rendent même pas compte. Quand vous regardez les livres, il ne faut pas vous imaginer que les dessinateurs ont dit « bah maintenant, je vais faire une histoire où la femme va s'occuper de la cuisine et va rien faire d'autre ». Ils ne pensent même pas à ça. Ils véhiculent ces stéréotypes sans même s'en rendre compte. Et quelquefois, on se rend compte de choses absolument aberrantes. Par exemple, dans les livres, il y a beaucoup de choses qui ont évolué du niveau des hommes. C'est vrai qu'on raconte des histoires où les papas s'occupent des enfants, où les papas ont un ressenti beaucoup plus émotionnel. Mais par contre, les rôles de la femme, on reste encore dans des choses. Je me suis déjà rendu compte que dans un livre pour enfants, on n'a jamais inventé la lave-vaisselle. Voilà. Le lave-vaisselle, ça n'existe pas dans une cuisine. C'est toujours avec le chiffon. Et c'est toujours, ben, c'est toujours le... Mais c'est hallucinant quand même. Alors, ils sont censés quand même parler de la vérité ou au moins être le reflet d'une époque. Ben, non. Donc, c'est à nous, et surtout aux bibliothèques, puisque c'est quand même la lecture, ça se fait au tout début. Quoi. Les premières histoires qu'on raconte sont des histoires qui sont très importantes, si pas déterminantes pour la suite. Donc, si on peut déjà véhiculer ces idées où justement on ne dit pas « toi tu vas pleurer parce que les filles peuvent pleurer, le garçon ne peut pas pleurer », on arrive à des situations dramatiques. Les garçons qui sont vraiment conditionnés, « je ne peux pas ressentir les choses, ça c'est quelque chose de féminin, je ne peux pas le faire ». Et on obtient, on a à la fin des gens qui ont quelquefois des problèmes psychologiques importants et qui du fait de ne pas pouvoir l'exprimer, de ne pas ressentir les choses, ben, finissent par soit se suicider, soit commettre des crimes et des choses comme ça. Voilà où on peut en arriver. Vraiment, ce sont des situations extrêmes. Voilà où peut mener le fait de ne pas exprimer ses émotions.
Moi, je reviens à l'école, mais oui. À l'école, on est parfois obligé de lire des livres et des choses comme ça. Est-ce que il y a des professeurs qui te demandent conseil ou
Non, pas du tout. Non, ça, jamais. Ça, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Au mieux, le professeur, mais c'est très très rare, permet aux élèves de choisir un livre comme il veut. Alors là, c'est formidable pour moi, parce que là, je peux essayer quand même, parce que l'idée, c'est quand même de donner envie de lire. J'essaie d'orienter en faisant en sorte que la lecture, même obligée, reste un bon souvenir quand même. Quoi.
Et je voulais poser encore une question. Tu disais qu'il y avait plus de filles qui venaient à la bibliothèque que des garçons. D'accord. La preuve, voilà. Mais la plupart des filles qui viennent à la bibliothèque viennent pour des livres scolaires, des livres qu'elles doivent lire pour l'école, ou bien d'autres
aussi, mais quand c'est les garçons, c'est une obligation scolaire, mais quand c'est les filles, c'est la lecture plaisir, quoi. Et donc là, en général, toutes les briques qui sont là devant, elles partent, c'est elles qui lisent tout ça. Ouais, les garçons, c'est très rare, très très rare. C'est triste, mais c'est comme ça, quoi. Encore une fois, parce que pour les garçons, la lecture, il faut de l'action, il faut bouger, il faut du sport, il faut... Voilà, quoi. Et à la limite, pour eux, quand ils viennent ici, ils viennent jamais seuls. ils viennent toujours à 2-3, ils sont déjà en train de plaisanter, quoi, comme si c'était déjà un endroit, allez, un petit peu honteux pour un garçon de venir ici, quoi. C'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Mais voilà, pourquoi? C'est la question que je me pose, quoi. Pourquoi? Parce que pour eux, la lecture, c'est quelque chose de passif, donc la lecture, c'est plutôt quelque chose qui est réservé aux filles et pas aux garçons. Dans les classes, on arrive quelquefois à des retournements de situation. En fait, les bons élèves sont ceux, ils n'osent même pas trop le dire, quoi, parce que c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Les bons élèves, ce sont les mauvais qui sont. Hein. C'est les costauds, c'est les meneurs de bande, c'est eux. Et les autres, hein, c'est juste un tout petit avec des lunettes. Pas bien. Non, mais c'est triste, c'est fou. Quoi. C'est hallucinant. Alors qu'on peut très bien aimer les livres et faire de la musculation, il n'y a pas de raison. Quoi. Mais voilà. Mais tout ça est formaté. Quoi. Et finalement, les jeunes sont excessivement conformistes. Donc, on a toujours peur de s'écarter justement de tout ce qui est stéréotype. Quoi. C'est ça qui est terrible, parce que c'est une société où on montre une certaine image, dans les feuilletons, c'est encore la même image, et donc, à force d'entendre la même chose, on se dit, bon, ben, c'est pas possible, ça doit être vrai, puisqu'on ne me parle que de ça. Et c'est comme ça qu'on part sur des images qui sont tout à fait fausses de la vie. Quoi.
Après avoir entendu cet extrait, qu'en pensez-vous, les filles?
Ben voilà, moi en fait j'étais là pendant qu'on interviewait ce monsieur, et que c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de garçons, il y en avait quelques-uns, et qu'ils étaient là, mais même pas en train de faire leurs devoirs, etc. Les filles étaient bien concentrées sur leurs devoirs, et les garçons ils étaient là en train de jouer, etc. Et puis dans cette bibliothèque il y avait vraiment un beau petit coin avec des livres où c'est écrit, en fait c'était l'homme qui faisait la cuisine, la femme qui regardait la télé, la princesse qui allait essayer de sauver en fait le prince, etc. Donc j'avais vraiment adoré.
Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, sur la vision que tu as eue quand tu as été à la bibliothèque. Tu as dit que tu as vu beaucoup de filles et que les garçons étaient peu, et s'ils étaient là, ben, ils étaient en train de jouer. Mais je trouve que c'est un peu dommage que les garçons ne viennent pas souvent à la bibliothèque, et je trouve qu'ils devraient un peu changer leur point de vue, et voilà quoi.
Oui, et j'aimerais revenir sur un point que le bibliothécaire a abordé au début de son interview. Il a parlé du fait que même les métiers réservés au début aux filles, comme la cuisine et la couture, lorsqu'on constate que c'est toujours les garçons qui sont des chefs cuisiniers, et dans l'autre couture, c'est aussi les garçons. Par exemple, en anglais, j'avais lu précédemment un article qui se nomme Always Boy Club, et là-bas, c'est vraiment le domaine du cinéma. Et il y a trois grands fronts, on va dire, du cinéma, et ce sont trois femmes qui occupent ces fronts. Trois femmes, et même ces femmes n'osent pas embaucher d'autres femmes parce qu'elles ont peur qu'elles ne soient pas toujours là présentes pour terminer leur travail à temps, parce qu'il y a leurs enfants qui leur attendent à la maison. Même les femmes ont cette vision en elles, quoi. C'est vraiment c'est choquant quand je vois tout ça.
Mais si nous prenons un exemple d'un entretien d'embauche, d'un côté nous avons une femme et de l'autre un homme. Le patron va plus facilement engager l'homme, car il saura que la femme sera absente durant, par exemple, ses mois de grossesse.
Congés
de maternité qui vont durer 3 mois, tandis que l'homme, lui, pourra prendre 2 semaines de congé grand maximum. Et donc, il vise la facilité, et donc voilà. Mais je trouve que tout le monde devrait avoir la même chance, et donc que ce serait mieux d'avoir les mêmes congés de maternité pour l'homme et pour la femme, comme ça, il n'y aurait pas de discrimination.
Oui, et t'as parlé des congés de maternité, et moi j'avais un prof de religion que j'ai eu au début de l'année, c'était cours qui parle sur la Bible, et il parlait à un moment de la médecine. Il disait que l'État paye énormément d'argent, surtout quand c'est cette année de médecine, il paye énormément d'argent pour financer ses études, et il disait que quand une femme entame des études de médecine, à la fin, elle doit abandonner ses études parce qu'elle décide d'avoir un enfant. Et indirectement, il voulait passer le message, déjà que l'État a des dettes, n'exagérez pas, quoi. Ne faites pas de la médecine, allez vous planquer dans l'enseignement, et voilà, occupez de vos enfants. C'est vraiment... Mais pourquoi pas, la femme aussi... Quand une femme a un enfant, c'est aussi... Enfin, l'enfant, c'est pas seulement de la mère, c'est aussi de l'homme. Donc, c'est vraiment à égalité.
Donc, et une femme, je trouve qu'elle sait gérer les deux en même temps.
Voilà.
Donc, il faut pas se dire que c'est une femme et qu'elle est pas capable d'aller plus loin, faire les mêmes études qu'un homme, etc. Donc, oui. Voilà.
Ouais, elle peut très bien suspendre ses études et recontinuer après. Ça peut être une solution envisagée.
Oui, bien sûr.
Mais je voudrais aussi parler de la notion que tu avais parlé... l'effet plafond de verre. Donc, par exemple, quand on arrive à une fonction de haut niveau, la femme ne pourra pas y accéder car justement, c'est une femme. Et donc, je trouve ça un peu dommage.
Mais je vais vous donner un exemple. Donc, ma professeure de français, elle avait deux enfants et elle a fait des études de médecine.
Okay.
Je trouve que c'est possible d'avoir des enfants et faire des études de médecine, de littérature, voilà quoi. Il ne faut pas limiter avec ses enfants. Les femmes peuvent aussi faire des études comme des hommes, 10 ans, même 15 ans.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est ce qu'on dit.
Nous aussi, on est d'accord avec cette idée, mais on veut dire c'est l'entourage qui nous met des murs, en fait, et qu'on ne sait plus passer. Mm-hmm. On a des barrières. Comme on est des femmes, ils nous disent, oui, c'est mieux que vous faites la péricultrice, l'institutrice, comme ça, comme vous allez être plus tard maman, vous pouvez travailler facilement et gérer les deux. Et dans cet instant-là, les hommes, ils n'ont pas vraiment leur place d'être papa, quoi, parce que c'est nous qu'on occupe plus de nos enfants, etc., et que les hommes, ils sont...
Ils ont un rôle secondaire.
Oui, c'est vraiment la tradition, quoi. Tu fais des études de médecine, tu vas terminer à 28 ans. Si tu doubles pas, si tu doubles, c'est à 30 ans que tu auras terminé tes études. Quand tu vas te marier, quand tu auras des enfants, tu vas pas trouver un mari qui voudrait une femme de 30 ans. C'est vraiment du n'importe quoi.
On doit se marier jeune pour avoir des enfants et pour... Moi, je trouve ça n'importe quoi. Et on doit changer ça, on doit changer le monde pour mieux avancer dans notre vie. Et voilà.
En fait, carrément, les mentalités, ils nous obligent à nous marier, à faire des enfants et laisser nos carrières du côté.
Voilà,
oui.
Et qu'on n'est tous pas d'accord avec cette idée-là.
Ouais. Donc, il faut changer son entourage.
Ouais, c'est ça.
Oui. Il ne faut pas les écouter.
Et à un moment, on dit aussi que la discrimination, donc l'injustice entre hommes et femmes n'est pas un vieux combat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Ou alors faudrait comme les hommes dire oh non, vous avez déjà assez de droits comme ça, qu'est-ce que vous demandez encore? Pourquoi vous nous faites chier avec vos droits? Donc qu'est-ce que vous en pensez?
Les hommes, ils disent ça parce qu'ils ont déjà tous leurs droits et qu'ils sont vraiment rois, on va dire, entre guillemets. Ils ont tout ce qu'ils veulent, etc. Et donc c'est notre combat à nous, des femmes, qu'on essaie de prendre notre place à côté d'eux aussi.
Car eux, ils n'ont rien à perdre, tandis que nous, on a tout à gagner.
Oui, voilà. c'est vraiment pas un vieux combat. Quand on constate la différence de salaire, on gagne 20% en moins. Imaginez une femme qui fait 7 années d'études en médecine. C'est vraiment le même stress qu'un homme. Et à la fin, elle gagnera 20% de moins que l'homme. Je vois pas. Est-ce qu'elle a moins de performance ou c'est vraiment...
c'est juste parce qu'on est une femme. Voilà.
Voilà. Et donc... la société d'aujourd'hui est toujours une société inégalitaire.
Non, c'est clair. Vraiment.
En fait, c'est masqué. Il y a énormément d'inégalités, mais on masque tout ça. Enfin, pour la plupart des personnes, c'est normal tout ça. C'est vraiment masqué. Du coup, énormément de personnes ne constatent pas ça. Mais c'est vraiment des inégalités qui existent, mais qui sont vraiment masquées de par...
En fait, quand on en parle et tout ça, avec des personnes et tout ça, ils disent que c'est tout à fait normal que ce que vous me dites...
Ouais, pour un homme, ça, c'est normal de gagner plus qu'une femme, parce que pour lui, ça ne le choque pas. Donc, Donc, pour terminer, nous allons entendre un extrait qui a été enregistré lors de notre visite à une exposition sur l'égalité entre les filles et les garçons à Berkem-Sainte-Agathe.
Donc, ici, dans la première pièce, vous voyez plein d'armoires avec des phrases dessus. Et en fait, c'est tout des clichés. Donc, par exemple, on va prendre le cliché, les garçons, ça ne s'habille pas en rose. Donc, je pose la question aux élèves et je demande, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, il y en a qui disent c'est vrai, il y en a qui disent c'est pas vrai. Et donc, je demande d'ouvrir l'armoire. J'ouvre l'armoire et qu'est-ce qu'on voit? On voit une équipe de rugby habillée en rose. Voilà. Donc, j'essaie ici d'expliquer les clichés. Donc les clichés, en fait, pour 80%, c'est la vérité, c'est vrai, mais on ne peut pas généraliser, on ne peut pas faire une généralisation. Voilà. Et quand on réfléchit trop en clichés, en stéréotypes, on va commencer à discriminer. Par exemple, ici, est-ce qu'il y a des filles qui aiment bien le foot? Voilà. Donc, il y a deux filles qui aiment bien le foot. Par exemple, là, les filles, ça ne joue pas au foot. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? On va ouvrir, qu'est-ce qu'on voit? Deux filles qui jouent au foot. Si on réfléchit trop en clichés, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, les filles ne jouent pas au foot.
Oh, moi je vais que jouer avec les garçons au foot, parce que les filles, elles savent quand même pas jouer au foot.
Les filles, si vous devez choisir maintenant un stéréotype, ici que vous voyez à l'exposition, qui vous touche, ce serait lequel ?
Celui-là, les garçons, ça ne pleure pas.
Les garçons, ça ne pleure jamais.
Oui.
Moi, c'est les filles, ça ne se bagarre pas.
Les garçons ne portent pas de robe.
Si. Les garçons, ça ne fait pas les tâches ménagères. Si.
Les filles, ça ne s'intéresse pas à la science.
Si. Et qu'est-ce qu'on voit là ?
Une femme.
Vous avez vu ce qu'elle fait ? Elle a le logo de la NASA, c'est une cosmonaute.
Les garçons, ça ne joue pas à la poupée. Et dès qu'on voit ici qu'il fait un biberon, un bébé.
Mais moi, je pense, moi, je suis vraiment convaincue, en fait, que quand tu ne donnes pas une poupée à un garçon, tu lui enlèves la possibilité, à un moment donné, de devenir un papa qui s'occupe de ses enfants. Voilà, ça, c'est
pas une poupée, c'est un enfant, normalement. C'est une poupée.
Oui, mais c'est justement, je trouve que c'est le lien est intéressant de dire, les garçons, ça ne joue pas à la poupée. Et puis de montrer un vrai bébé, parce que quelque part, quand on dit à un garçon, tu ne peux pas jouer à la poupée, c'est un jeu de fille, c'est dire que c'est uniquement aux femmes de s'occuper des bébés plus tard. Et par contre, aux garçons, qu'est-ce qu'on va donner comme jouet ?
Des autos et tralala.
Voilà, donc les filles, elles s'occupent de la maison, des enfants, des poupées, hein, si tu veux, et les garçons, ils ont les petites autos, et puis plus tard, ils peuvent partir avec les autos. Et voilà, moi je pense que les jeux, c'est pas innocent, on en reparlera.
Ah ben voilà, la première loi sur l'enseignement primaire communal pour les garçons et les filles de 6 à 12 ans stipule que chaque commune doit financer au moins une école primaire. Isabelle Gatti-Gamont fonde un enseignement secondaire pour filles assez proche de celui des garçons.
Il y avait aussi secondaire.
Oui, mais seulement une seule école en 1864. Hein.
Et c'est seulement en 1914, ça c'est toi qui posais la question avant, que l'enseignement primaire est obligatoire pour les filles et les garçons.
Ah, peut-être que j'ai de la chance que je suis née après.
Et regarde, là, c'est encore marrant. La règle grammaticale, le masculin l'emporte sur le féminin.
Ah hein, bah oui, ça, on l'a connu ça à l'école. Hein.
Qui existe dans la langue française et qui nous oblige à dire tous les garçons et les filles sont beaux, alors qu'on pourrait dire tous les garçons et les filles sont belles, date du XVIIe siècle.
Le grammarien François Rouen a créé cette règle car il trouvait que le genre masculin étant le plus noble.
Étant le plus noble.
Ouais.
Donc c'était comme c'était mieux d'être un garçon que d'être une fille, en gros. Hein. C'était voilà. Plus noble.
C'était plus noble.
Alors
plus
dans le classe. Français aussi, c'était plus classe, mais du masculin.
Voilà.
Ah ben oui, ça c'était des histoires.
Alors. Quelqu'un veut venir, ça veut dire venir?
En classe, l'institutrice trouve que Ben est très agité. Il est toujours là pour se faire remarquer. Il répond aux questions de l'institutrice sans lever le doigt et en coupant la parole aux autres. L'institutrice a trouvé le moyen de le calmer. Dorénavant, il serait assis à côté de Nathalie. Car c'est bien connu, les filles, c'est plus calme et discipliné que les garçons.
Oui, mais...
Oui, mais c'est un stéréotype bien ancré. Mais il est vrai que les adultes sont plus tolérants avec un garçon turbulent qu'avec une fille.
Voilà, donc il croit que c'est dans la nature d'un garçon d'être turbulent et que c'est dans la nature d'une fille d'être calme, alors que c'est pas vrai. Voilà.
Attends, il y a encore ici, justement, c'est sur l'école.
À la récréation, Bart et Els ne sont pas d'accord. Bart détient la vérité sur le fait que les filles ne sont pas douées pour les sciences. En effet, dans la classe de son cousin, il n'y a qu'une fille. Donc, les garçons sont nuls en littérature, conclut Els. Oui, mais on remarque effectivement que les choix des études s'orientent vers les sections littéraires pour les filles et vers les sections scientifiques pour les garçons. Pourtant, rien ne prédispose à cela. Il y a même des études qui avaient été prouvées on avait interrogé des professeurs en leur disant, voilà, est-ce que vous faites des différences entre les filles et les garçons pour les pousser vers certaines matières? Et les profs avaient dit non, pas du tout. Et les chercheurs ont été dans ces classes pour observer comment ça se passait. Et ils avaient remarqué que les profs passaient plus de temps à expliquer les sciences aux garçons qu'aux filles. Comme si les filles, mais de toute façon, ne vont pas comprendre. Tandis que les garçons ont passé plus de temps, mais étaient plus patients, plus attentifs à ce qu'ils retiennent les matières scientifiques.
Oui, mais moi j'ai un truc que je comprends pas. Je trouve que, par exemple, les filles étudient toute leur vie pour qu'à la fin, quand ils vont se marier, leur monsieur, bah, il dit, maintenant tu restes à la maison. Franchement, leur étude, ça a servi à rien alors. Ouais.
Mais c'est peut-être, tu sais, plus tu fais des études, plus en principe tu es dans un rapport de dire « mais moi je peux ramener de l'argent à la maison et je vais aller travailler ». Parce que c'est vrai, il y a la pression beaucoup pour que les filles restent à la maison. Mais si tu as fait des études, plus tu as fait d'études, plus tu peux peut-être défendre que tu vas aller travailler. Et puis de toute façon, les filles, quand vous vous mariez, ne vous mariez pas tête en l'air, hein, vous négociez, hein. Parce que c'est vrai que dans le mariage, on est amoureux, on a...
C'est
mais
vrai.
Il faut avoir le réflexe de discuter pour être sûr qu'on a bien la même vision des choses. Si vous voulez travailler, ça doit être clair que vous avez envie de travailler. Si vous pensez que vos enfants iront à la crèche parce que c'est important pour vous de travailler, ça doit être posé, ça doit être dit. Mmh. Et du coup, quand même, avant de vous marier, prenez un peu le temps, quoi.
Voilà, moi, je vais me marier temps, à 50 ans.
Ah ben voilà, voilà, regardez. C'est des blocs, c'est pour construire le mur qu'on a envie de construire pour le futur. Donc, allez-y.
On peut ?
Ouais, on en
oui. Génial. Alors, on essaye de construire notre société.
Ouais,
liberté. Ok.
Écoute.
Est-ce que ça, c'est intéressant ou pas ?
Oui.
Égalité,
non,
des,
égalité
salaires.
Des salaires.
Non ?
Oui. Je me fais rendre
compte. Ok.
Communication.
Voilà, on bricole, hein. Il n'y a pas que les garçons. Ouais. Filles et garçons. Ça, c'est la porte, soi-disant. Donc, on va mettre tout de même.
Mini-jupe.
Oh. Ah oui, oui, oui.
Alors, c'est quoi la société Attends. Parfaite, la société idéale?
C'est la démocratie.
C'est quoi d'autre,
la liberté.
Les filles
Écoutez.
Communication.
L'écoute. L'égalité. L'égalité de salaire. La communication, le respect, les droits, les cultures.
Remise en question. Droit de vote.
Respect. Féminisme.
Donc, après avoir écouté cet extrait, quelles sont vos dernières réactions, vos derniers points de vue?
En ce qui concerne... Les stéréotypes que le monsieur avait évoqués, il a dit que 80% étaient vrais. Je pense pas que 80% est vrai, et je pense que vous aussi, vous pensez pas que 80% des stéréotypes sont vrais.
Non. Je pense qu'il faudrait changer ça, et que voilà.
Et concernant le fait que les professeurs privilègient plus l'explication des sciences envers les garçons, ça aussi, ça dépend des profs et des écoles, je trouve. Par exemple, mon prof à moi, mon prof de sciences ne privilège pas les garçons ou bien les filles, quoi. C'est vraiment, c'est une égalité. Mais c'est vrai que dans certaines écoles, c'est vrai qu'il y a, on dit souvent que les garçons sont plus intéressés. Je suis d'accord, ils peuvent être plus intéressés, mais pas beaucoup plus intelligents que les filles en ce qui concerne les sciences. Parce que dans ma classe, il y a des garçons qui sont super intéressés par la physique, parce qu'on parle souvent de la mécanique parfois, on évoque le thème de la mécanique, et du coup, ils sont plus intéressés. Là, j'avoue qu'il y a plus d'intérêt, mais ils se posent beaucoup plus de questions, mais c'est vraiment pas parce qu'ils le comprennent mieux, parce que ça et tout. C'est vraiment la société qui fait qu'ils sont plus intéressés, mm-hmm. et que les filles qui peuvent être moins intéressées, mais les filles comprennent mieux, ça j'ai remarqué.
C'est vrai que nous, les filles, on comprend directement, c'est comme si on avait un sixième sens. Mais je reviens aussi sur ce que tu viens de dire. Dans mon école non plus, je vois pas que les profs expliquent mieux les sciences aux garçons qu'aux filles, ils vont pas vraiment des différences, donc
ça dépend. Ça dépend des écoles.
Il y a aussi une phrase qui a été dite. C'est dans la nature d'une fille d'être calme et dans la nature d'un garçon d'être turbulent. Est-ce que ça vous choque ou pas?
Oui, ça me choque.
Parce que en fait, une fille, elle aussi, elle peut créer, elle peut faire beaucoup de trucs. Mais un homme, il doit se bagarrer, il doit être un voyou. Et une femme, elle doit être douce, elle doit être calme, elle doit pas se montrer, quoi. Mais tandis qu'un homme, il doit être un voyou, il doit être musclé, il doit être fort.
Mais le contraire existe aussi, donc on peut très bien voir un homme calme et une fille turbulente.
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Mais comme la population, on va dire les gens qui nous entourent, ils nous grandissent avec une mentalité pour dire que les filles, t'es une fille, tu dois être plus sage, tu dois rester comme si. Et les hommes, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. S'il fait une bêtise, c'est un garçon, c'est normal. Donc ils le laissent passer. Donc c'est pour ça que je trouve que.
Parce que c'est un homme. Voilà.
Et
ce qui concerne les enfants, donc. Dans les crèches, qu'est-ce qu'on fait? On sépare. Donc, on dit aux filles, toi, tu dois jouer avec les poupées, la poussette. Et pour les garçons, c'est voiture, camion. Mais les garçons veulent aussi jouer avec la poussette, mais on n'autorise pas. On les sépare. Je trouve que ça, c'est injuste.
Oui, c'est...
On ne peut pas laisser les enfants jouer avec la poussette. Oui. Les garçons, surtout, de jouer avec la poussette, quoi.
Oui, là, on renforce vraiment les stéréotypes. On dit à un garçon, tu ne peux pas jouer avec la poussette. Ce qui fait que plus tard, le garçon aura toujours dans sa tête le fait que, ah non, la poussette, non, merci. Du coup...
Même qu'il aura un enfant, ce n'est pas lui qui le tiendra qui peut, en disant, parce que, voilà, je suis un garçon, il préfère que ce sera sa femme
pas,
qui le tient, etc.
Il ne va pas pousser son enfant, quoi.
Oui.
Moi aussi, j'ai des exemples comme ceci. Je veux dire, dans une école maternelle, il y avait un enfant, il y avait une petite fille qui avait des autocollants avec des Barbies et qui était rose, etc. Elle était en train de distribuer à toutes les filles. Il y a un garçon qui est venu lui demander. Et puis la fille, elle n'a pas voulu en disant que c'était un garçon. Puis ils ont été tout près d'une institutrice. Ils lui ont expliqué la situation. Et l'institutrice, elle a commencé à dire que c'était un garçon. Donc, ce n'était pas pour lui les autocollants roses.
Bref, carrément.
Je trouve qu'il ne faut pas associer les couleurs par rapport au... sexe aussi, donc...
Si par exemple, dans la rue, on voit un garçon qui porte un t-shirt rose, ben, il sera traité de pédé, de pédale. Tandis qu'une fille, pour une fille, c'est normal. Mais je trouve ça un peu discriminatoire de faire ça, quoi. Les couleurs sont pas... Il n'y a pas des couleurs qui sont associées aux garçons et des couleurs qui sont associées aux filles.
Oui, c'est vrai. Je pense à un professeur qui était venu à notre bal de réto et ce jour-là, c'était la Gay Pride. Et il avait mis une chemise rose. Donc tout le monde disait, ah, monsieur, vous êtes venu de la Gay Pride et tout. C'était vraiment des clichés qu'on lançait sur lui. Mais voilà. Ben, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, il faut vraiment le prendre à sa source. C'est vraiment à travers l'éducation qu'il faut changer les stéréotypes. C'est vraiment à partir de l'éducation que ça commence, que les enfants commencent à imprégner toutes ces idées.
Parce que si on fait même la discrimination au niveau des couleurs, dans quel monde on va aller, quoi? Franchement, c'est du n'importe quoi. Et je voudrais aussi parler de la notion du mariage. Est-ce que le fait de se marier, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de boulot ou alors qu'on doit juste travailler à mi-temps? Qu'est-ce
pas
que
du
vous
tout.
En dites?
C'est, enfin, c'est toujours vu comme ça, en fait, que les femmes, elles doivent avoir un horaire flexible, tandis que l'homme peut travailler à n'importe quelle heure de la journée. C'est... Enfin, le mariage ne doit en aucun cas empêcher la femme de pouvoir exercer un métier qu'elle aime.
Ouais. Donc, il faut se mettre d'accord avec son conjoint dès le début et lui dire non, on ne travaillera pas à mi-temps, on veut travailler à temps plein. Et s'il ne le comprend pas, ben, tant pis, au pire, c'est le divorce, quoi.
En fait, la femme, si elle se marie un jour, elle se divorce, elle a son diplôme, elle va travailler. Tandis que si elle se marie, elle s'occupe de ses enfants, elle reste à la maison. Elle va se dire, mince, j'ai pas de travail, j'ai pas de boulot, je dois rester à la maison.
Oui.
Rien à faire. Mm-hmm. Et si elle a son diplôme, elle doit faire beaucoup de choses.
Et c'est peut-être pour ça que les filles préfèrent entamer de longues études pour être indépendantes, pour pouvoir gagner un salaire qui leur permettra de vivre sans le besoin d'être mariée et du salaire d'un mari. C'est vraiment...
Pour être autonome.
Oui, voilà. Et l'autonomie et l'indépendance.
Voilà. C'est dommage qu'après 10 ans d'études, ben juste à cause du fait qu'on se marie, on doit passer d'un métier à temps plein à un métier à mi-temps, juste pour satisfaire les besoins de son conjoint. Je trouve ça un peu dommage.
C'est de l'égoïsme de la part du conjoint.
Ouais. Nous allons conclure par une note positive. Les filles, qu'est-ce que le projet vous a appris? Qu'est-ce qu'il vous a apporté?
Avant ce projet, en fait, je faisais jamais la différence entre je veux dire, la couleur rose, que c'était pour une fille, et le bleu, c'était pour un garçon. Donc, pour moi, c'était automatique parce que j'ai vu comme ça, donc j'ai vu ça. Et donc, maintenant, je commence vraiment à associer ces deux-là. Donc, même pendant mes stages, etc., quand je vois qu'il y a l'institutrice qui commence à donner des feuilles avec une voiture dessus pour que les garçons y colorient et des Barbies pour que les filles colorient, je trouve ça injuste. Donc, voilà quoi.
Oui, et en ce qui me concerne, enfin avant, c'est vrai qu'on ne sait pas, comme tu l'as dit, faire la différence, c'est pas du bien du mal, c'est vraiment de voir si c'est du sexisme ou pas, parce que parfois on se dit, oui c'est normal, et ça nous paraît normal, et c'est comme si c'était pas du sexisme, c'est tellement devenu banal, trivial, mais après avoir fait ce projet, on constate vraiment qu'il y a beaucoup beaucoup d'inégalités, énormément d'inégalités qui sont vraiment masquées et on peut remarquer que les hommes sont contents de leur... C'est vraiment eux et même les femmes aussi qui renforcent ces inégalités. Ça nous permet vraiment de mieux voir les choses.
Et en ce qui me concerne, moi j'ai vu une évolution en moi-même parce qu'au début, ben, quand je passais genre à côté d'une pub sexiste, ça m'interpellait pas du tout, ça me choquait pas. Je trouve ça un peu normal que la femme doit montrer ses atouts pour que la pub puisse se vendre. Mais maintenant, depuis que je suis arrivée à La Voix des Femmes et que j'ai rencontré certaines personnes comme Fouzia ou Hélène, ça m'interpelle plus et je suis contente d'avoir participé à ce projet avec vous, les filles, et qu'on ait pu prendre conscience que des stéréotypes existent encore maintenant, que ce n'est pas un vieux combat et qu'il faut changer ça. Et que si chacune de nous fait un petit truc pour l'humanité, ensemble, on pourra y arriver. Donc, voilà.
En fait, moi, je voudrais remercier La Voix des Femmes parce que, en fait, moi j'étais vraiment naïve envers ça. Je comprenais pas pourquoi la femme elle doit se vendre, comme tu as dit, pour les produits et tout ça. Moi je voyais pas la différence entre ça. Je me disais, c'est pas grave, on s'en fout, elle vend son corps. Et c'est pour ça.
Moi aussi, je remercie La Voix des Femmes car j'ai appris que, comme j'ai une petite sœur, ma mère achetait tout en rose. Vêtements roses, voitures roses. Et voilà, dès qu'on a fait des recherches sur ce sujet, j'ai dit à ma mère d'arrêter d'acheter tout en rose et de voir acheter en bleu, acheter en rouge. Et ma petite sœur, elle adore Spider-Man, Ben 10, et j'ai dit d'acheter Spider-Man, d'arrêter d'acheter des Barbies. Mais d'acheter Spider-Man. Et grâce à ce sujet, maintenant, ma petite sœur joue avec Spider-Man, Ben 10. Elle a arrêté de jouer avec les Barbies.
Je trouve que c'est très bien ce que tu dis là, car ce que tu as fait, en fait, même si tu ne te rends pas compte, c'est que tu as changé les choses autour de toi, donc auprès de ta maman. Donc, tu as changé les choses auprès de ton entourage, en ouvrant un dialogue, en sensibilisant ta mère. Et donc, c'est en faisant des petits trucs comme ça, si chacune de nous, on fait des petits trucs comme ça, qu'ensemble... On peut changer le monde et donc voilà.
Oui, c'est comme l'accumulation des gouttes qui font que...
Ou des grains voilà, de sable qui fait que ça fait une montagne, donc voilà.